Les locaux d'Agorafilm sur les rivages du lac Léman avec Anas Khalaf. Mahaba.
Marhaba, bonjour, enchanté.
Merci. Et qui est là pour nous parler de son film, premier long métrage réalisé avec Madame.
Madame Rana Kaskaz,
voilà.
Mon épouse à la vie et à l'écran.
Et mère et des enfants du
voilà,
couple.
Et mère des enfants, de nos deux enfants. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on a fait quatre courts-métrages ensemble, un long métrage et deux enfants. Merci à la Valérie.
Et donc là, pour parler du film Le Traducteur, The Translator, un film qui suit le parcours de Sami, un interprète arabo-anglais qui vit en tant que réfugié en Australie, qui a une compagne et qui est très proche d'un journaliste depuis qu'il a été en fait contraint de rester en Australie suite à un lapsus lors des JO de Sydney, quand il a traduit les propos d'un athlète Mounib.
C'est ça, un athlète, un boxeur de la délégation syrienne qui avait envoyé 14 athlètes en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney.
Et donc, cette partie de lapsus de Sami qui est le contraint à rester en Australie, ça c'est une invention, mais ça aurait pu être tout à fait réel.
Ça aurait pu être tout à fait réel, mais c'est...
Et c'est la genèse du film.
Et exactement, c'est le point de départ du film. Et c'est quelque chose évidemment qu'on a inventé, c'est une pure fiction, mais qu'on a ancré dans une réalité historique, qui sont les 14 athlètes syriens qui étaient bel et bien à Sydney. Donc voilà, et l'aventure commence à ce moment-là, parce qu'à cause de ce lapsus, il ne peut plus rentrer en Syrie, parce que ce lapsus, on dit toujours un lapsus révélateur, a révélé son réel sentiment sur la suite du pouvoir laissé vacant par la mort de Hafez al-Assad en juin 2000 et la prise du pouvoir de son fils Bachar al-Assad en juillet 2000. Et les Jeux Olympiques se passent en août, donc tout ça, ça s'est cristallisé pendant un été de l'an 2000. Donc il reste, effectivement, comme vous avez dit, il reste en Australie et il commence une nouvelle vie. Il devient traducteur pour la télévision australienne, il a une compagne, il travaille, il est épanoui. Jusqu'au début du printemps arabe, commencé en Tunisie fin 2010, qui va après se propager,
comme on le sait,
en Moyen-Orient, Égypte, Libye, Yémen et Syrie. Et là, un peu l'Iran aussi. Après, ça a été bien sûr étouffé, mais c'était aussi en Iran, absolument. Et il traduit une vidéo qui lui a été envoyée par citoyens journalistes en Syrie. Et dans cette vidéo, il voit son frère se faire arrêter et se faire embarquer par les forces du régime. Donc, il décide de retourner en Syrie. Il est toujours recherché lui-même en Syrie, donc il doit rentrer en Syrie de façon... illégal, caché dans un camion pour essayer de retrouver son frère, où est-ce qu'il a été arrêté, essayer de le faire sortir. Voilà le pitch rapide du film. Ça se passe en 2011, au tout début du printemps arabe syrien, au début de la révolution syrienne qui a commencé le 15 mars 2011, et le film se passe du 15 mars au 8 avril, sur 3 semaines 2011.
Précisons quand même que Sami porte en lui une certaine culpabilité, parce que quand ils étaient enfants, avec son frère, leur père embrasse la famille et ils le suivent depuis le balcon de la famille, de l'appartement, et ils verront leur père être maltraité, emporté dans une sorte de fourgonnette grillagée. Et il porte cette culpabilité en lui aussi. Il a un sentiment peut-être de n'avoir pas été un souteneur pour son frère, qui lui est très opposé au gouvernement. Et on apprendra plus tard qu'il écrit un livre avec un confrère à l'université sur en fait tous les citoyens qui manifestent de manière totalement pacifique et qui se retrouvent écrasés par les gouvernements, quel que soit le pays.
Absolument, quel que soit le pays, parce que c'est les mouvements pacifiques à travers l'histoire ont marqué l'histoire, ont jalonné l'histoire de notre monde, où des gouvernements plus que répressifs réprimaient dans le sang des manifestations qui se voulaient pacifiques au début, comme pendant le printemps arabe, au début du printemps arabe, mais également, comme on le montre dans le film, en Russie, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Chine. Vous avez remarqué bien sûr
mai 68,
et vous avez remarqué bien sûr que ces cinq exemples du film qui sont très 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 présentés de façon très précise représentent les cinq pays du membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc voilà, ça c'est bien sûr un clin d'œil très fort selon nous sur la répression que même ces pays-là peuvent présenter et contraindre leur peuple par la force. Donc oui, c'est absolument ça. Il est coupable parce qu'il se sent différent de son frère et de son père, qui tous les deux étaient des activistes. Le père en 1980 avant qu'il se fasse arrêter, on le montre au début du film, et le frère qui a pris la suite alors que lui se trouve à l'étranger loin de sa famille depuis 11 ans et il hésite, mais finalement il y va parce que il veut essayer d'aider son frère et d'aider son père à titre posthume, parce qu'il ne l'a pas
dont
fait.
Dont on ne sait rien, d'ailleurs.
Dont on ne sait rien, il a disparu complètement, comme on dit en arabe, mafoud, ça veut dire disparu sans aucune nouvelle. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, on ne sait rien. Et donc voilà, donc il a cette culpabilité, il va essayer de rattraper ça comme il peut, à travers ses actions, suite à son arrivée en Syrie.
Il reste aussi une sœur, qui est d'ailleurs enceinte.
Oui.
Son compagnon l'a laissé tomber.
Oui.
Et il semblerait qu'il soit parti du côté du gouvernement.
Non.
Non.
Non. Donc son mari l'a quitté parce qu'elle voulait pas avorter, elle voulait garder l'enfant. Et lui, il a dit, on peut pas garder un enfant dans ce contexte. Donc il l'a quitté et on le revoit par la suite. Il a pas pris. Donc il a plutôt pris le chemin de ce que va devenir Daesh plus tard, c'est-à-dire rejoindre les djihadistes islamistes dans un combat qui va mettre aussi la région et
les civils
et le reste du monde en feu. Voilà.
Alors par contre, l'athlète, on le retrouvera plus tard,
oui.
Monib.
Oui.
Et on ne va pas tout dévoiler du film, évidemment.
Non, il ne faut pas.
Voilà, il ne faut pas. Mais on voit que malheureusement, des concessions sont faites et que des gens changent de voie parce qu'il faut survivre.
Absolument. Donc le Monib, l'athlète en question qui a fait cette déclaration à la presse au début du film en arabe et que lui a traduit en anglais en faisant ce lapsus, on comprend dès le début du film que c'est son ami d'enfance, c'est son meilleur ami. Et évidemment, et après, suite à cela, parce que lui va rester en Australie, mais Monib va devoir rentrer en Syrie, même si c'est pas lui l'auteur du lapsus, mais le régime syrien n'en a que faire, et il va passer aussi un mauvais moment, et il va devoir faire ses choix pour continuer sa carrière et sa vie. Donc évidemment, ça, on le découvrira dans la deuxième partie du film.
À Nasrallah, on imagine bien que c'était impossible de filmer en Syrie.
Oui.
Donc vous êtes allé en Jordanie, si je ne me trompe
pas.
On
a filmé à Amman, dans la banlieue de Amman. On a habité avec Rana et les enfants en Jordanie pendant 3 ans, 2014-2017. Donc on connaît bien le pays, on connaît bien la ville. Et effectivement, il y a moult rues, avenues, coins, recoins, immeubles, façades, quartiers, morceaux de quartier, qui ressemblent très très étrangement à des coins de Damas. Donc on a fait un repérage qui a duré très longtemps, mais qui a été très très efficace pour faire les choix les plus judicieux, les plus stratégiques de filmer Amman comme si c'était Damas. Donc c'est ce qu'on a fait.
D'ailleurs, à propos de Jordanie, il y a énormément d'immigrés syriens qui sont actuellement en Jordanie.
Il y a plus d'un million de réfugiés syriens. Ce n'est pas des immigrés, c'est des réfugiés.
Réfugiés, pardon.
Pas grave. Ce n'est pas des migrants non plus, hein, parce qu'il y a toujours, cet amalgame entre, surtout venant en Europe, les migrants et les réfugiés, ce n'est pas du tout la même chose. En Jordanie, donc oui, on a aussi eu accès à des Syriens présents en Jordanie, acteurs non professionnels, qui sont venus jouer dans le film avec nous. On avait fait, en 2016, un documentaire de 30 minutes, un court documentaire qui s'appelle « À la recherche du traducteur »,« Searching for the Translator », où on avait fait passer des auditions et un casting à des réfugiés syriens non professionnels pour jouer dans le film. Donc voilà, c'était l'avant-garde du tournage du long-métrage de fiction. Donc oui, voilà, effectivement, beaucoup de Syriens sont dans le film et ont joué avec nous dans cette fiction.
Alors, je rebondis sur vos propos, justement, Anas, par rapport aux acteurs, les acteurs principaux. Est-ce qu'on peut dire comment vous les avez sollicités pour ce film ?
Alors, bien sûr. Il faut savoir que les Syriens en exil ou réfugiés à l'étranger ont réalisé plus de 25 documentaires sur la révolution et la guerre en Syrie depuis 10 ans. Au niveau des fictions, il y en a beaucoup moins, c'est plus compliqué à financer, plus long à monter. Donc notre film, Le Traducteur, est le premier film de fiction sur la révolution syrienne. Et pour cela, on a voulu pas seulement prendre des acteurs et des comédiens et des comédiennes syriens, syriennes, mais des comédiens et des comédiennes de la région du Levant, parce que les Jordaniens, les Palestiniens, les Libanais, à l'époque de l'Empire ottoman, c'était un seul peuple, c'était une seule région, qu'on appelait la région de Cham, le Levant, voilà, et donc on a été effectivement puisé dans ces pays aujourd'hui, Liban, Jordanie, Syrie et Palestine, pour les personnages principaux du film. C'était très important pour nous que cette lutte, que cet activisme soit interprété par des acteurs et des actrices de toute la région et non pas seulement des Syriens.
Du Levant, que Marlouf a souvent traité dans ses livres.
Exactement, exactement. Donc pour nous, c'était très important. Donc l'acteur principal, c'est Ziad Bakri, qui est palestinien. L'actrice principale, Yumna Marwan, qui est libanaise. Alors pour info, l'actrice principale devait être Fadwa Suleiman, l'actrice activiste syrienne qui avait dû quitter la Syrie dès 2011 parce que menace de mort par le régime, qui l'avait laissé vivre juste parce qu'elle était alaouite, donc la même confession que le clan Assad. Et elle s'était réfugiée en France et on avait développé le film avec Rana en pensant à elle dès le début. Et elle était, c'était vraiment une personne admirable et une très bonne actrice. Malheureusement, elle est décédée en 2017 et on n'a pas pu bien sûr continuer avec elle. Et on a dû retrouver une actrice de remplacement et on a choisi Yumna Marwan, une Libanaise très très forte aussi, qui joue le rôle principal féminin. Ensuite, on a évidemment des Syriens. La sœur du traducteur Loulou est interprétée par Sawsan Arshid, une Syrienne également réfugiée qui a dû quitter la Syrie. Fares Hulou joue aussi un rôle important dans le film. Rami Farah, c'est le troisième Syrien, et la quatrième Syrienne, c'est Rim Ali. Donc voilà, on a quatre Syriens dans le film, on a deux Palestiniens dans le film, on a deux Libanais dans le film, on a deux Jordaniens dans le film. Donc voilà, c'est un vrai mix, mais on a essayé de splitter les rôles en fonction, mais le casting a pris beaucoup de temps, mais on est très content au final du résultat et des performances pendant le film.
Et donc vous avez réussi à représenter le Levant dans votre film grâce aux comédiens. Pour l'enfant, parce que l'enfant a un rôle quand même qui relie les adultes.
Bien sûr, l'enfant donc c'est le neveu du traducteur, c'est le fils de son frère disparu. Donc quand il arrive en Syrie, ce qu'on disait Karim. Tout à l'heure, Karim, quand il est arrivé en Syrie tout à l'heure, quand on expliquait tout à l'heure, il arrive en Syrie, il retrouve sa sœur, donc Loulou enceinte, et il retrouve sa belle-sœur, qui est Karma, la femme de son frère, et son fils, parce que son frère et sa belle-sœur ont un fils ensemble qui a 12 ans, et donc il fait partie de la famille, et donc il se retrouve là aussi avec lui, et il a une relation effectivement très spéciale avec lui, parce que en fait, il a quitté la Syrie 11 ans auparavant, donc il ne l'a jamais rencontré. Au moment où il allait naître, il est parti aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ils se sont parlé à distance toutes ces années, et ils se rencontrent pour la première fois, donc c'est effectivement une relation très très spéciale entre les deux. Bien sûr, pour le petit Karim, son oncle, c'est comme son père, et pour le traducteur, son neveu, c'est comme son fils. Donc voilà, ça a été très... très beau à filmer, très beau à les voir travailler ensemble. Et le Karim est joué par notre fils, notre propre fils, Rana et moi.
Ah, Mabrouk de nouveau.
Merci à la valet fille qui s'appelle Zayd. Donc nos enfants jouent avec nous. Lui joue le rôle de Karim, notre fils. Et notre fille, Zayn, joue le rôle de la fille de Rami Farah, celui qui est l'ami qui a été emprisonné, qui est libéré et qui montre le livre à Sami, le traducteur. Donc voilà, nos deux enfants sont dans le film avec nous.
Magnifique. Et ben voilà, je sais comment vous les avez trouvés alors pour le casting, c'est pas trop compliqué. Il y a d'ailleurs une belle scène avec votre fils. Il regarde en fait la nuit étoilée, on entend un peu les grillons, les cigales, c'est paisible. Et tout d'un coup, on entend une femme hurler parce que les milices sont en train de prendre son fils, de le frapper et de l'emporter.
Et de l'emporter.
Son petit-fils.
Son petit-fils, voilà, exactement. Donc elle crie parce qu'ils viennent. Comme ça a été très très souvent le cas de nombreuses fois, des centaines, des milliers de fois, ils viennent dans certaines maisons, certains appartements, parce qu'ils ont entendu que telle personne avait participé à telle manifestation.
Délation.
Délation, bien sûr, avait organisé une manifestation, avait organisé voilà, quelque chose pendant le début de la Révolution. Donc ils viennent chercher cette personne à la maison, ils l'embarquent et après il disparaît, on n'entend plus parler. Donc cette scène est bien sûr très forte et très révélatrice de ce qui se passait au quotidien à Damas en 2011.
Justement, en 2011, on parlait encore beaucoup de ce qui se passait dans tout le Moyen-Orient, dans toutes ces révolutions, on les suivait. Au fil des années, malheureusement, Ça s'est estompé, il y a eu un désintérêt. Et je pense que vous avez suivi ce que faisait Carla Del Ponte quand elle était encore procureure à La Haye. Elle avait le dossier syrien. Elle a quand même traité le dossier du Rwanda, le dossier de l'ex-Yougoslavie. Et à Locarno, en 2016, elle avait dit « ça fait 6 ans que je travaille sur la Syrie et 6 ans que je me heurte à une volonté internationale de ne rien faire pour stabiliser la situation ». Vous partagez ce sentiment ?
Oui, c'est une volonté internationale de ne rien faire. Oui, effectivement, il y a eu...
Il y a des enjeux économiques tellement puissants.
Ah, je ne sais pas si c'est que économique. C'est économique, c'est une stabilité de la région. C'est, vous savez, la Syrie, le souci de la Syrie, c'est géographiquement comment elle est placée entre l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Turquie et Israël. Oui.
Et l'Iran.
Non, l'Iran, il n'y a pas de frontière avec l'Iran, mais le contact direct avec l'Iran, effectivement. Et la frontière avec Israël. Donc, il y avait un enjeu de si Assad est renversé, si les Occidentaux interviennent, si les Américains, comme Obama avait prévu de le faire, interviennent, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer un vide. Qui va occuper ce vide et pour combien de temps ? Et là où le régime syrien a été très malin, et on le montre dans le film, c'est qu'il a... 12 jours après le début des événements de la révolution, le 15 mars, le 27 mars, le régime syrien a sorti tous les djihadistes et les islamistes des prisons syriennes. Il leur a dit « Allez-y, allez rejoindre vos petits copains ». Et ça, c'est tout à fait historique et confirmé. Et ils sont partis et évidemment, ils ont rejoint leurs camarades djihadistes islamistes irakiens qui étaient sortis également des geôles et des prisons irakiennes. Et 2 ans plus tard, fin 2013, c'était la naissance de l'État islamique de Daesh, qui bien sûr a occupé le devant de la scène pour toutes les années suivantes. Et surtout, à inquiéter les Occidentaux au plus haut point. Et c'était ça la stratégie du régime. Donc, très malin, hyper fort de « Ok, on les laisse faire, ils vont s'organiser, ils vont foutre un chaos pas possible sur la région, sur la zone, mais également en Occident, également en Europe. » Les attentats en Europe et
les nombreux jeunes qui partaient faire le djihad.
Et notamment en France, pardon.
Et les nombreux jeunes
bien
d'Europe
sûr, qui partaient faire le djihad aussi en Syrie, absolument. Donc avec ça, avec cet événement-là, la création de Daesh et le risque que Daesh prenait grandissant, croissant de jour en jour, les Occidentaux se sont dit « Bon, Assad, peut-être c'est mieux que lui, que l'État islamique. » Et ça a été, selon moi, un très mauvais calcul, parce que l'État islamique, bien sûr, et le danger qu'il présente toujours, était réel. Mais le danger du régime d'Assad est très réel aussi. Je veux dire, c'est 6,5 millions de réfugiés hors de la Syrie, 10 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie.
Combien de morts ?
Le nombre de morts, on ne sait pas. C'est entre 500 000 et 1 million. Le nombre de disparus, entre 300 000 et 500 000. Donc, on n'a même pas les chiffres exacts. Et le pays a été complètement détruit, a été complètement rasé. Donc... voilà le calcul des Occidentaux disant voilà on garde ce tyran là, on garde ce Gugus là parce que on veut pas risquer pire, mais ça peut pas être pire. c'est ça le souci. Sauf que aux yeux des Occidentaux, il y a une réelle crainte, une réelle peur, voire une obsession de l'islam radical, qui est bien sûr qui est justifié. Mais comment ces mecs là peuvent-ils gérer un pays, c'est juste pas possible. Comme maintenant, on a l'exemple avec l'Afghanistan qui vient de basculer, qui vient de créer un nouvel État justement islamiste. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais sur la durée, c'est pas possible. Rappelez-vous, Morsi en Égypte, il prend le pouvoir complètement par les urnes parce que les Égyptiens, après 30 ans de Moubarak, ils en pouvaient plus et ils voulaient autre chose. Donc, ils votent pour lui, il prend le pouvoir. Si vous vous souvenez, les premières mesures du mec, c'était quoi ? Il dit, on ferme les cinémas, on interdit les jupes et les robes pour les femmes. L'armée a dit, ok, bon bah c'est bon, je crois que c'est réglé. Une semaine après, le gars était en prison, il est mort en prison. Il a été renversé parce que ça ne peut pas fonctionner sur la durée. Politiquement, les islamistes, que ce soit Daesh, Al-Qaïda ou autres, ils ne peuvent pas fonctionner sur la durée, ça c'est mon intime conviction. Donc la Syrie, il y avait... possiblement un risque que Daesh prenne le pouvoir en Syrie, mais jamais sur la durée, jamais. Donc voilà, les Occidentaux ont choisi ça, et malheureusement, voilà, 10 ans plus tard, on est en 2021, le régime est toujours là, plus présent, plus fort que jamais, aidé évidemment par Poutine et par les Iraniens, mais quelle tristesse, quelle débandade pour tous ces Syriens, pour toutes ces victimes, c'est quand même affreux.
Et Anas, rappelons que la Syrie, c'était considéré comme quasiment la Suisse de l'Orient, tellement c'était paisible par rapport aux autres pays.
C'était paisible. Alors, ce n'était pas vraiment la Suisse, c'était plutôt le Liban qui était la Suisse, de, la Suisse du Moyen-Orient avant la guerre de 1975. Mais c'était paisible parce que y avait, c'était contrôlé d'une main de fer, évidemment. Il y avait une sécurité interne qui était totale. Et évidemment, dès qu'il y avait un soubresaut des frères musulmans en 1982, où il y a eu une rébellion des Kurdes en 2006, bien sûr, c'est tout de suite... La main de fer du régime vient pour calmer tout ça. Donc, évidemment, la Syrie était paisible politiquement parce qu'il n'y avait aucune activité politique, le régime contrôlait tout. Mais c'est un pays qui s'ouvrait avec l'arrivée de Bachar Assad au pouvoir en 2000, qui s'ouvrait enfin économiquement parce que pendant les années Hafez, c'était pas d'importation, pas d'exportation, le pays était autosuffisant, fabrication locale, etc. Mais évidemment, il n'a pas pu bénéficier d'un développement économique. Qu'il aurait mérité, comme les pays du Golfe, comme le Liban par exemple, comme la Jordanie ou la Turquie évidemment. Donc économiquement, ça aurait pu très bien se passer. Malheureusement, voilà, la révolution est venue à ce moment-là pour mettre un frein à toutes ces ambitions du régime Assad. Et voilà, la suite, on connaît l'histoire.
Alors Anas, vous êtes présent à Genève justement plusieurs jours. Puisque le traducteur va sortir sur les écrans en Suisse romande, il était déjà présenté votre film durant le Festival des droits humains en mars dernier. Oui. Le traducteur, bah justement, sa profession est liée au langage, aux
bien
mots.
Sûr, bien sûr.
Et l'importance, justement, parfois on traduit, mais l'importance de respecter peut-être la voix d'autrui. Et en même temps, à côté de lui, il y a cette belle-sœur qui, elle, est ophtalmologue. Mm-hmm. Comme le président syrien.
Absolument, absolument.
Les choix ne sont pas anodins.
Non, les choix ne sont pas anodins. Bien sûr, il est là pour traduire à double niveau. Il est là pour traduire pour les audiences dans le film. Dans son job, c'est de traduire pour les téléspectateurs ce qui se passe pendant le printemps arabe.
Ainsi que les vidéos là qu'il reçoit.
Absolument, donc il est là pour traduire et expliquer ce qui se passe dans telle ou telle vidéo, comme on le voit au début du film quand il est en Australie. Et ensuite, il est là aussi, et c'est nous qui parlons à travers lui, il est là pour traduire aux spectateurs du film ce qui s'est passé réellement en 2011, au début de la révolution. Parce que, pour revenir brièvement à Daesh et l'État islamique, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez avec quiconque de la Syrie, même les gens les plus affûtés. Ils disent, non, mais Daesh, qu'est-ce qu'il y avait avant Daesh? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les gens pensent, pour la majorité des personnes, que Daesh était au début du soulèvement en Syrie, que tout a commencé avec Daesh, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, c'est tellement ancré dans l'inconscient des gens. Je vous donne un exemple, on a fait une demande de financement en France pour le traducteur, sur la base du scénario, et la réponse qui nous a été donnée, c'est, accrochez-vous, l'histoire est bien, c'est un thriller, ils ont aimé, mais le film ne parle pas assez de Daesh, donc on ne va pas lui donner le financement. Alors que Daesh est arrivé fin 2013, le film se passe en 2011. Vous voyez à quel point les gens sont restés bloqués là-dessus, mais il ne parle pas de Daesh, pourtant, forcément, Daesh était là en 2011, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez à quel point ça, c'est choquant. Donc pour nous, c'est très important
de le rappeler,
d'expliquer aux gens ce qu'ils ont oublié, manifestement, et qu'en 2011, c'était... des manifestations pacifiques qui appelaient même pas au renversement du régime. Le régime n'était même pas en danger à ce moment-là. Les gens voulaient juste des réformes. Ils voulaient juste plus de liberté, plus de dignité. Et c'est tout ce qu'ils demandaient.
Accéder à la démocratie.
Accéder à la démocratie peut-être à terme, parce qu'on sait que la démocratie au Moyen-Orient, c'est un gros souci. Et ça prend des décennies, voire plus, à instaurer. On le comprend. Mais surtout, voilà, un peu plus de liberté au quotidien, sans mettre en danger le règne absolu du monarque. Donc, mais même ça, le régime n'a pas voulu l'entendre et ils ont préféré tuer les gens en leur tirant dessus dans les manifs. Et on a toutes les images, toutes les vidéos sont là de toute façon. Donc c'est ça qui est triste. C'était vraiment un rendez-vous manqué qui aurait pu réussir. Et Bachar el-Assad, s'il avait voulu écouter et commencer à entendre ce que les demandes du peuple, et il aurait pu en sortir, mais grandi, quoi. Mais vraiment grandi. Et comme le président du nouveau Moyen-Orient, enfin, ça aurait pu vraiment se passer d'une façon beaucoup plus simple, je pense, et calme, mais il en a été décidé autrement par lui et par d'autres, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas lui qui décidait tout, il y a ceux qui tirent les ficelles aussi derrière.
Et donc le choix de la belle-sœur qui est ophtalmologue,
oui.
C'est les gens en Syrie qui voient mais qui ne peuvent pas forcément parler.
Exactement. Donc lui était ophtalmologue à London, à Londres.
Mmh. Avant où il a rencontré sa femme.
Où il a rencontré sa femme qui habitait évidemment en Angleterre. Et lui a été rappelé en Syrie à la mort de son grand frère, Bassel El-Assad, en 1994, qui devait prendre la suite, dès la naissance, il devait prendre la suite de son père. Donc il a été éduqué dans ce sens-là et dans cette optique-là. Mais le frère, pas du tout, pas du tout. Il n'était pas du tout dans la politique, donc il a été appelé pour remplacement du frère aîné décédé. Et donc c'est là qu'il a commencé à, être entraîné, coaché pour devenir le successeur. Et effectivement, ce qui est très intéressant et même pertinent à savoir sur Bachar el-Assad et ce choix, pourquoi être ophtalmo, la question lui a été posée début de la décennie 2000 quand il est arrivé au pouvoir en Syrie, parce que tout le monde voulait chercher à savoir qui est ce mec. Et il a dit, j'ai choisi cette spécialité parce qu'il n'y a aucune urgence en ophtalmologie. C'est très rare de voir un homme, une femme arriver aux urgences d'un hôpital avec un œil crevé, ça arrive, mais c'est très très rare. Donc pour lui, c'était quelque chose, voilà, où il n'allait pas avoir d'urgence, pas de stress, et qu'il allait pouvoir exercer tranquillement. C'est quand même fou quand on entend ça et on voit ce qui s'est passé après. C'est quand même incroyable. Donc voilà, pour nous, c'était cette anecdote avait été incroyable avec Lana quand on l'avait lue, et donner le job d'ophtalmo à évidemment Karma, c'était très symbolique pour nous qu'elle soit ophtalmo comme lui.
Quel est votre espoir par rapport à la situation de la Syrie? J'imagine que vous avez encore des proches, en avez-vous là-bas?
Oui, on a des proches lointains, parce qu'on a des grandes familles, donc oui, des cousins éloignés, des arrière-cousins. Bien sûr, la situation n'est pas simple. Les coupures de courant, les coupures de mazout, d'essence.
L'eau.
L'eau, bien sûr, les coupures d'eau, tout est rationné. C'est compliqué. C'est compliqué en Syrie aujourd'hui et depuis des années. L'espoir, bah, il faut demander à Poutine, c'est quoi son programme avec Assad, parce que c'est quand même Poutine qui gère maintenant le pays avec Assad. On pense pas que les jours meilleurs vont venir bientôt. Non, on est plutôt pessimiste, malheureusement.
Dorénavant, vous êtes établi avec votre famille au Qatar.
Oui, on est à Doha. Oui.
C'est un choix pour rester proche culturellement aussi, d'être pas trop éloigné, puisque vous aviez en commun la France,
oui,
avec votre épouse.
Oui, alors on est tous les deux franco-syriens avec Lana. Donc j'ai dû dire qu'elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est...
Avec les enfants?
Non, elle n'est pas avec les enfants. Les enfants sont avec les grands-parents. Elle donne des cours dans une université aux États-Unis, mais elle sera là en fin de semaine pour la sortie du film, pour mercredi prochain, pour la sortie du film ici à Genève. Oui, on a quitté la Syrie, on est parti en Jordanie, puis de Jordanie, on est parti au Qatar. C'est un choix de rester sur la région. Les films que l'on fait, les histoires qu'on raconte sont des histoires du Proche et du Moyen-Orient, donc on voulait rester proche. Et évidemment, le Qatar nous a accueillis parce que Lana a un job là-bas de professeur de cinéma dans une université, et nos enfants là-bas sont à l'école suisse d'ailleurs, ils sont à l'école suisse de Doha. Voilà, donc voilà, on est installé là-bas depuis 3 ans et encore pour quelques années, on pense, et on continue à faire nos films à partir du Qatar. Le Qatar est d'ailleurs coproducteur du traducteur, c'est un...
Avec la Suisse.
Avec la Suisse, c'est Suisse, Belgique, France, Qatar, Syrie. Donc voilà, on est là-bas, pour l'instant on y reste.
Donc vos enfants sont polyglottes,
oui.
Et vos enfants cinématographiques, est-ce qu'il y a déjà des projets?
Bien sûr, on a plusieurs films en écriture, en développement. Un autre film sur la révolution syrienne qui se passe un peu après le début de la révolution. C'est plutôt sur, là on est sur 2014-2015. Voilà, il y a plusieurs projets, donc sur qu'on continue à raconter des histoires de la Syrie.
Shukran Anas.
Hala,
Shukran.
Halafiki, Shukran Aktir.
Merci beaucoup. Et à la prochaine avec Lana.
Bien sûr, avec Lana, bien sûr, elle sera là.
Merci.